Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au sommaire de ce journal, journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale en Iran, les manifestants condamnent les crimes américano-israéliens en Asie de l'Ouest. La nation iranienne a certainement réussi dans sa lutte contre les États-Unis, déclaration du leader de la révolution islamique d'Iran. Et puis Israël a tué plus de 50 enfants à Jabalia en 48 heures dans le nord de la bande de Gaza, déplore l'UNICEF. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Iraniens ont organisé dimanche des marches à travers le pays pour marquer la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale, également baptisée la journée nationale des lycéens. Ils ont scandé des slogans contre les États-Unis et Israël qui ne cessent de commettre des crimes en Asie de l'Ouest. Les villes d'Iran étaient ce dimanche le théâtre de rassemblement pour célébrer la journée nationale des élèves qui marque l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, également connue comme la journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale. Chaque année, les Iraniens descendent dans la rue pour célébrer le jour, manière de manifester leur colère face à l'hostilité et les ingérences interventionnistes et néfastes des États-Unis envers leur pays au cours des dernières décennies. Dans la capitale Téhéran, les manifestants se rassemblent devant l'ancienne ambassade américaine, connue sous le nom du nid d'espionnage en Iran. Le 4 novembre 1979, des étudiants ont pris d'assaut l'ambassade qui était un centre de planification, de manipulation, d'ingérence et de tentative de domination du pays après la victoire de la révolution islamique. Les étudiants ont ensuite publié des documents qui démontraient le complexe. Son personnel avait pour mission de faire aboutir des plans et des mesures visant à renverser l'establishment islamique en Iran. Le leader de la révolution islamique iranienne, l'honorable Ayatollah Khamenei, a salué les officiers de l'armée qui ont donné leur vie pour défendre le pays contre l'agression israélienne à la fin du mois dernier. L'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei a fait ce commentaire lors d'une audience accordée aux familles des quatre martyrs. Il a déclaré que tous les martyrs jouissent d'un statut stellaire dans l'au-delà. Cependant, le leader a souligné que le martyr de ceux qui ont été assassinés dans l'agression israélienne est particulièrement remarquable et significatif. Pour l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ces martyrs occupent un tel rang car, a souligné le leader, ils sont tombés en martyrs pour défendre le pays et dans un combat direct contre le régime israélien. L'ennemi le plus maléfique de l'islam, a-t-il fait remarquer. Dans ses discours précédents, le leader avait promis une réponse écrasante à Israël en guise de représailles à actes d'agression militaire contre l'Iran. Le Conseil des gardiens de la Constitution iranienne affirme que l'Iran et d'autres nations de la région se dresseront contre les crimes israéliens et sortiront victorieux face au régime. Dans une déclaration à l'occasion de la Journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale, le Conseil a fustigé les États-Unis pour leur soutien politique et militaire au massacre continu par Israël de femmes et d'enfants innocents à Gaza et au Liban. Le Conseil des gardiens de la Constitution a qualifié ces incidents de nouvelles manifestations de l'arrogance mondiale. Le Conseil des gardiens de la Constitution a également appelé à des manifestations générales en Iran pour afficher une nouvelle fois la répugnance envers les crimes et les exactions israéliens et les soutiens complices du régime sioniste. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme que les États-Unis et Israël se dirigent vers l'effondrement et l'annihilation. Le général de division Hossein Salami affirme que les États-Unis et Israël ne pourront pas se sauver de l'effondrement face à la volonté des nations musulmanes. Le général Salami affirme que ce sont les musulmans qui décideront du sort de la nation et de la région de l'Asie occidentale et que les États-Unis ne peuvent plus imposer leur hégémonie au monde musulman. Le général Salami a fait ses commentaires lors d'une cérémonie marquant la journée nationale iranienne de lutte contre l'arrogance mondiale. Il a ajouté que les États-Unis ont utilisé toutes les stratégies et tous les outils à leur disposition contre l'Iran et ont pourtant fini par être vaincus. Le général Salami a souligné que l'Iran ne permettra pas aux puissances hégémoniques comme les États-Unis de piétiner sa dignité. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran se classe désormais parmi les pays les plus avancés dans le domaine de la technologie nucléaire. S'exprimant lors d'une réunion avec des étudiants et des professeurs de l'université de Shiraz ce samedi de novembre, Mohammad Eslami a déclaré que l'Iran, grâce aux efforts acharnés de la jeune génération iranienne, avait enregistré de remarquables progrès dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Il a noté que de grands efforts ont été déployés au sein de l'OIOA au cours des dernières années pour passer de la phase de recherche à la phase industrielle et que ce processus se poursuit. Au cours des dernières années, l'Iran a enregistré de nombreuses avancées dans son programme d'énergie nucléaire pacifique malgré les sanctions américaines et d'autres obstacles créés par l'Occident. En tant que l'un des premiers signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Iran coopère également étroitement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. De nombreux civils ont été tués à Gaza alors que les attaques israéliennes se poursuivent sans discrimination sur le territoire palestinien sous blocus. Lors d'une frappe au petit matin, des avions de guerre israéliens ont ciblé une maison à Jabalia dans le nord de Gaza, tuant et blessant plusieurs Palestiniens. À Beit Lahia, également dans le nord de Gaza, plusieurs frappes aériennes israéliennes ont fait plus de 10 morts et plusieurs blessés parmi les Palestiniens. Dans le sud, l'attaque d'un drone israélien sur une zone de Rafah a fait des morts. L'agression israélienne contre la bande de Gaza assiégée a commencé en octobre de l'année dernière. Depuis lors, plus de 43 300 Palestiniens ont été tués et plus de 102 000 autres blessés. L'ONU a condamné les frappes indiscriminées d'Israël contre des civils à Gaza, affirmant que plus de 50 enfants ont été tués en 48 heures dans une seule ville. La directrice générale de l'UNICEF a déclaré que le véhicule d'un employé avait également été attaqué par un quadricoptère présumé israélien dans la ville de Jabalia au nord. Catherine Russell a déclaré que la voiture avait été endommagée, mais que l'employé n'avait pas été blessé. Quatre enfants ont également été blessés dans une attaque israélienne contre un centre de polio dans le nord de Gaza, malgré une pause humanitaire convenue. Le régime d'occupation sioniste a lancé une offensive militaire et un siège intensifié dans le nord de Gaza le mois dernier. La défense civile palestinienne affirme que plus d'un millier de personnes ont été tuées et 200 000 déplacés de force existent dans cette région. La police allemande a réprimé avec brutalité des manifestants pro-palestiniens dans la capitale Berlin. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans une station de métro pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens et condamner la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza. Les manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans anti-israéliens ont été réprimés, arrêtés par les forces de police. Les manifestations anti-israéliennes dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, ont été à plusieurs reprises le théâtre de violentes répressions policières. Il y a quelques mois, Amnesty International a vivement critiqué la police allemande pour avoir fait un usage excessif de la force contre des manifestants lors d'une manifestation pro-palestinienne à Berlin. En France, des centaines de personnes ont organisé une manifestation dans la capitale Paris pour protester contre les meurtres de journalistes par Israël dans la bande de Gaza et au Liban. Les manifestants ont également critiqué le régime israélien pour avoir arrêté des journalistes et refusé aux médias l'accès à Gaza. Ils ont déclaré que ces mesures visaient à tuer des personnes sans témoin. Samedi, le secrétaire général de l'ONU a également déclaré que Gaza avait connu le plus grand nombre de meurtres de journalistes et de professionnels des médias dans une guerre depuis des décennies. Antonio Guterres a appelé à des mesures urgentes pour protéger les journalistes dans le monde entier. Selon des responsables palestiniens, plus de 180 journalistes palestiniens ont été tués dans l'agression israélienne à Gaza depuis octobre de l'année dernière. Des dizaines de journalistes ont également été tués au Liban. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. La nation iranienne a certainement réussi dans sa lutte contre les États-Unis. Déclaration du leader de la révolution islamique d'Iran. Le guide suprême de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a salué la nation iranienne pour avoir remporté une victoire définitive dans sa lutte contre les États-Unis. Certains sèment le doute quant à la possibilité de faire face à un système moderne, avancé, dominant et puissant, comme le gouvernement américain, a écrit l'Ayatollah Khamenei dans un message publié ce samedi 2 novembre sur son compte officiel X. Oui, le peuple iranien l'a combattu et a certainement réussi jusqu'à présent. Aujourd'hui, la nation iranienne a pu repousser et affaiblir ce grand ennemi, les États-Unis, lit-on dans le message. Le leader a écrit son message à l'occasion de l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine par des étudiants iraniens dans la capitale, Téhéran, le 4 novembre 1979, qui est connu dans le pays comme la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale. Lors d'un discours prononcé ce samedi 2 novembre, à l'occasion de la Journée nationale des lycéens, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que l'ambassade américaine n'était pas seulement un site d'activité diplomatique et de renseignement, mais plutôt le siège d'un complot visant à en finir avec la révolution islamique d'Iran. L'Ayatollah Khamenei a également dénoncé dans son message sur X le bilan sombre des États-Unis en matière des droits de l'homme, qui englobe une longue histoire d'abus mortels contre de nombreux pays. Aujourd'hui, les droits de l'homme américains, vantés sous diverses formes, ne trompent plus personne, a-t-il précisé dans son message. Le leader a rappelé que les États-Unis s'opposaient en défenseurs des droits de l'homme tout en qualifiant de terroristes des personnalités aussi éminentes que Seyyed Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh et le général Qassem Soleimani. Nasrallah, ancien secrétaire général martyr du Hezbollah, et Haniyeh, ancien chef martyr du bureau politique du Hamas, ont été tués en martyrs lors d'attaques israéliennes contre Beyrouth et Téhéran plus tôt cette année, tandis que le général Soleimani, ancien commandant de la force haute du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, est tombé en martyr lors d'une frappe américaine contre la capitale irakienne Bagdad en janvier 2020. Ce sont plutôt les auteurs des atrocités qui sont des terroristes et des bandes criminelles, a fait remarquer l'Ayatollah Khamenei. Le leader a également évoqué la guerre génocidaire du régime israélien en cours dans la bande de Gaza et l'escalade de l'agression meurtrière contre le Liban, qui ont coûté la vie à environ 50 000 personnes, principalement des femmes et des enfants depuis octobre 2023. Est-ce une petite affaire ? Les États-Unis, qui prétendent être un défenseur des droits de l'homme, soutiennent et sont complices de ces crimes. Les plans et les armes utilisées proviennent des États-Unis, a-t-il noté, faisant référence au soutien complice politique, militaire et de renseignement total de Washington à l'agression israélienne.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous, s'il vous plaît. Alors, nous parlons bien sûr des crimes commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens et du Liban. Alors, le gouvernement espagnol, cette fois, a décidé d'interdire le régime israélien de participer à un salon de défense, l'un des plus grands salons du monde, dans lequel plus de 400 donc, entreprises, de grandes entreprises de défense y participent. Le régime israélien n'a pas le droit d'y participer. Cela dû donc bien sûr l'attitude barbare et cette guerre génocidaire que mène le régime israélien à l'encontre des Palestiniens, mais également un incident qui a eu lieu par des militaires israéliens à l'encontre de délégations internationales dans lesquelles se trouvaient également des Espagnols. Le gouvernement espagnol est en colère contre Israël, ainsi que d'autres pays européens que nous allons parler avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Espagne a annoncé jeudi que les entreprises israéliennes ne seraient pas autorisées à participer à la FENDEF à Madrid, invoquant l'engagement du pays en faveur de la paix en Palestine et au Liban et son adhésion au droit international humanitaire. La ministre espagnole de la Défense, Amparo Valcarce, a déclaré dans un communiqué qu'Israël et ses entreprises étaient exclus du FENDEF, citant l'engagement de l'Espagne en faveur de la paix en Palestine et au Liban et son adhésion au droit international humanitaire. La décision d'exclure le régime de Tel Aviv serait due aux actions d'Israël dans les territoires occupés de la Palestine et au Liban, ainsi qu'à un incident au cours duquel des délégués internationaux, dont des Espagnols, ont été attaqués par des militaires israéliens en Cisjordanie. La délégation comprenait l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, et le député européen Jaume Asens, qui accompagnait des Palestiniens récoltant des olives lorsque les forces israéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes. FENDEF, l'un des 10 plus grands salons de défense au monde, devrait accueillir plus de 400 entreprises et se tiendra à Madrid du 12 au 14 mai.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat M. Bernard Cornu, analyste politique, est avec nous depuis la France. M. Bernard Cornu, bonjour.
Bonjour à vous et à toutes.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à Mme Aïssa Armidani, intellectuelle et analyste politique syrienne et française, qui est avec nous depuis la France également. Mme Aïssa Armidani, bonjour.
Depuis Damas.
Vous êtes à Damas.
Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation.
Un débat, bien sûr, naturellement, nous parlons bien sûr des crimes commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens et du Liban. On ne peut pas choisir d'autres débats ces jours-ci, malheureusement. Nous parlons cette fois des entreprises israéliennes qui sont exclues de participer à un salon de Madrid, l'un des plus grands salons de défense. Ma première question va s'adresser à Aïssa Armidani. Est-ce que cela va avoir des répercussions sur le monde entier, cette interdiction de la participation du régime israélien?
En tout cas, je salue. Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et à M. Cornu. Ce que je voudrais dire, en tout cas, c'est que je salue l'attitude de l'Espagne d'interdiction de cet État fantoche d'Israël d'assister au salon, d'une part. D'autre part, je voudrais aussi saluer tous les députés qui étaient en Cisjordanie en guise de soutien à la résistance palestinienne. Et j'aurais voulu que tous les pays du monde puissent faire un peu comme l'Espagne, comme l'Irlande, et comme tous les pays, le Nicaragua, qui interdisent à Israël non seulement l'accès au salon, mais aussi qui coupent les relations avec eux, qui renvoient les ambassadeurs, en guise de non seulement de protestation, mais un début, je dirais, de sanctions contre cet État fantoche qui fait fi de toutes les lois internationales, de toutes les lois des guerres, de toutes les lois humanitaires, et qui commet un génocide caractérisé en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie et au Liban aujourd'hui, puisqu'il s'attaque aussi à toutes les maisons d'habitation, il rase des villages entiers. C'est quelque chose contre lequel le monde entier devrait effectivement agir et réagir. Malheureusement, on voit que les gens avancent, en fait les pays occidentaux le soutiennent, et là je salue encore plus l'Espagne qui a pris cette décision. Je voudrais saluer très fortement la Belgique, enfin certains parlementaires de belges, des parlementaires français aussi, et puis tous les pays qui prennent position clairement aux côtés des peuples et contre le génocide et contre cette agression systématique contre la population civile menée par les Israéliens. Malheureusement, en toute impunité, puisque les instances internationales sont bloquées par les vétos américains et par les Américains. Je voudrais signaler que aussi des Autrichiens, ils se sont attaqués non seulement à la population, mais ils s'attaquent aussi à l'UNRWA, les instances, c'est une organisation de l'ONU et qui est pour l'aide des réfugiés palestiniens, mais aussi de la FINUL qui est au Liban et qui est là, censée aux frontières de séparation entre le Liban et l'État fantoche d'Israël. Mais en fait, il y a eu déjà 6 Autrichiens tués, blessés, d'autres qui ont été blessés aussi. Et donc, il est temps quand même que tous les pays du monde réagissent. Oui. Et fasse la même chose. Merci.
Oui, je vous en prie. Monsieur Bernard Cornu, donc Madame Aïssa Hamidani se félicite de la décision de l'Espagne quant à l'interdiction des sociétés israéliennes à participer à ce salon, l'un des plus grands salons. C'est bien sûr symbolique. Est-ce que vous croyez qu'il y aura une suite? Et quelle est la répercussion de cette décision à votre avis?
Il faudrait que ça encourage d'autres pays européens à avoir une position unifiée, plus cohérente, pour des sanctions envers les entreprises d'Israël d'armement, envers Israël et son gouvernement lui-même, comme cela souhaité par beaucoup de voix, y compris des voix juives ou des voix même israéliennes qui demandent qu'il y ait des sanctions contre cet État qui court au suicide de l'éthique juive qui a un moment prévalu pour la création d'Israël, mais qui s'est complètement désintégré à la vue des massacres perpétrés à Gaza et au Liban depuis maintenant un an et au Liban depuis plus d'un mois. Donc la France avait eu le courage d'interdire l'arrivée d'entreprises israéliennes d'armement au salon Euronaval qui aura lieu bientôt au nord de Paris, la semaine prochaine, la semaine qui vient. Mais malheureusement, les entreprises ont pu faire appel avec un avocat et le tribunal de commerce de Paris a dit que cela devait être suspendu. Et du coup, au moins trois des cinq entreprises qui devaient venir, qui avaient, ont confirmé leur venue. Donc on voit ici la puissance de certaines actions d'Israël dans les milieux occidentaux, puisqu'ils arrivent à mon avis, influencer ce tribunal de commerce pour invalider ou suspendre cette décision. Et on l'a vu dans d'autres cas, les avocats, les juristes au service du mouvement sioniste en Israël et sont très puissants et interviennent chaque fois pour contrer des actions politiques de la part de gens qui soutiennent la paix par la justice dans cette région. Et pour l'arrêt de la guerre, le cessez-le-feu, il y a eu des actions aussi même violentes, puisque j'en ai vécu lors de conférences sur l'histoire de la Palestine, en présence d'anciens ministres et de grands spécialistes, il y a eu des mouvements d'extrême droite juifs qui sont venus à Paris jeter des bombes lacrymogènes au sein de la Sorbonne. Je peux le témoigner, et nous avons essayé de faire un procès, et nous n'avons pas pu arriver à faire arrêter ces gens. Voilà, il est très difficile en France de lutter contre les manœuvres du gouvernement et de l'armée israélienne, qui prépare aussi d'ailleurs un gala de collecte de fonds, c'est un vrai scandale, dans une salle publique, enfin une salle privée de Paris pour collecter des fonds. Donc je pense qu'il y aura des manifestations pour empêcher, mais pour l'instant c'est autorisé, avec même la venue du ministre d'extrême droite, M. Smotrich.
Oui, c'est honteux, bien sûr. Aïssa Hamidani, quelle est votre réaction? Est-ce que vous croyez que cette décision de la part du gouvernement espagnol sera un début, un encouragement pour d'autres pays européens qui jusqu'ici soutiennent fortement et nourrissent militairement et de manière donc économique le gouvernement israélien pour mener cette guerre génocidaire?
Je pense que cet élan, effectivement, va aller de plus en plus dans le sens, effectivement, du soutien de des sanctions contre Israël, parce que là, il dépasse complètement toutes les limites, non seulement contre les Palestiniens, mais aussi ils agressent un État souverain qui est le Liban, et aussi, en toute impunité, ils continuent à bombarder le Liban. Ils ont bombardé des villages entiers et puis des pans entiers de la ville de Beyrouth. Ils continuent aussi à agresser. Hier, ils ont agressé la Syrie encore aussi. Mais là, ils ont agressé les villes aussi syriennes, la ville de Homs. Et ils ont bombardé des industries dans la ville de Dorser, qui est dans la banlieue de Homs. Donc j'espère quand même qu'avec que le monde voit que cette impunité provoque une déferlante tueuse et agresseuse de la part des Israéliens, et qu'il n'y a que des sanctions qui puissent l'arrêter, et des sanctions de tous les pays du monde, et pas seulement du bout des lèvres sur ceci ou cela. Il faut que ce soit des sanctions qui fassent mal à Israël, et alors que bien sûr aussi la résistance palestinienne et la résistance libanaise leur font mal et continuent aussi à leur asséner des coups, mais il faudra que le monde s'y mette hein, si on veut arrêter cette déferlante tueuse, d'une part, et si on veut aussi qu'il y ait un monde où il y a un minimum de règles qui soient respectées, puisque cette politique et cette attitude de cet État fantoche, prélude d'un monde où il y a les gangsters qui règnent, et il n'y a que ça, et la tuerie qui règne, et qu'il n'y ait aucune règle, et aucune loi internationale, et aucune possibilité pour les pays d'avoir un minimum de vie commune dans ce monde. Alors ça devient urgent, effectivement, plus qu'urgent et plus que nécessaire, que les pays prennent les CRS.
Aïssa Armidani, notre liaison a été coupée. Je m'adresse à M. Bernard Cornu. Donc, on ne peut être que d'accord avec Aïssa Armidani. Mais ma question est la suivante, M. Bernard Cornu. La décision de l'Espagne, est-ce que vous croyez que ça a permis à un gouvernement de ne pas avoir peur de la décision des États-Unis et ne pas avoir peur du lobby sioniste qui règne un peu partout en Europe? Est-ce que vous êtes d'accord, je vous prie?
Non, bien sûr, beaucoup de politiciens craignent les actions de manipulation, des lobbies, parce qu'on n'exploite toutes les faiblesses des gens et des hommes quand on veut les contrer sur le plan politique. Mais je pense que ce gouvernement de coalition a eu le courage déjà de reconnaître l'État de Palestine, a le courage maintenant d'interdire la présence d'entreprises israéliennes dans ce salon. Donc je pense qu'il saura résister aux manœuvres inévitables qui vont surgir pour le contrer et pour l'embêter. Mais je pense qu'il résistera parce que, d'une part, je pense que dans l'opinion européenne, il y a une majorité de gens qui voudraient que l'Europe sorte de cette complicité passive envers l'État israélien et son armée, parce que les gens ont vu ces massacres, même si tout le monde ne regarde pas les images d'Al Jazeera ou d'Al Manar, et que nos télévisions françaises sont très pudiques pour eux. Mais les choses progressent, il y a beaucoup plus d'images, il y a beaucoup plus d'interviews en direct maintenant depuis Gaza, d'un journaliste palestinien francophone. Ce matin, sur une radio publique, il y avait un très bon débat sur la situation à Gaza et sur le droit international, encore qui nécessite beaucoup plus de fermeté dans son application, beaucoup plus de rapidité pour être efficace. Donc, à la fois, les opinions sont là et les radios, les télévisions publiques commencent à sortir un peu de cette complicité passive, et les gouvernements qui sont très sensibles à l'opinion publique, à ce que disent les médias publics et privés, vont être obligés de sortir aussi de cette complicité passive. Le président Macron a parlé il y a quelques jours de barbarie en conférence de presse pour qualifier les actions de l'État israélien et de son armée. Donc les choses évoluent très lentement, trop lentement. Il y a eu des appels aussi dans un journal qui est souvent qui veut se présenter comme neutre. Il y a un appel pour un cessez-le-feu, pour l'application du droit international, pour une solution politique décisive qui reconnaisse les deuxièmes États, les deux États, à la fois en Europe et au Conseil de sécurité. Donc malheureusement, c'est très lent, beaucoup de morts, beaucoup de destructions dans toute la région, beaucoup de bombardements complètement illégaux et injustifiés, mais peut-être allons-nous vers la fin, et le courage de l'Espagne devrait servir pour les autres pays, pour qu'ils s'engagent aussi beaucoup plus fermement dans une politique critique et de sanctions.
Monsieur Bernard Cornu, Aïssa Armidani a évoqué tout à l'heure des sanctions qui feraient très mal à Israël, qui l'empêcheraient donc de continuer ainsi. De quelles sanctions, à votre avis, elle évoque ?
Les sanctions les plus efficaces, ce serait l'arrêt des exportations américaines et allemandes envers Israël, puisque le taux de bombardement, l'emploi tellement massif de bombardement par l'État israélien s'arrêterait assez vite s'il ne pouvait que se servir de ses stocks. Donc voilà, mais on est dans une période électorale très critique. Je peux comprendre que la candidate démocrate n'ose pas encore trop se prononcer pour l'application de justice, alors qu'elle est juriste, c'est une ancienne procureure de Californie, mais les lobbies sont tellement actifs et la campagne est tellement influencée par l'argent que je pense malheureusement qu'elle n'ose pas avoir des positions, même si le Parti démocrate a bien compris que son absence de réaction critique lui fait perdre beaucoup de voix de la part d'une bonne partie du public américain.
Oui, tout à fait. Aïssa Armidani, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous nous entendez?
Oui.
Quelle est votre réaction, je vous prie, si vous avez entendu les propos très directs de M. Bernard Cornu?
Oui, moi je suis d'accord avec lui, mais je crois que de toute façon, il faut aussi que les peuples fassent plus pression pour que les gouvernements suivent et aillent aussi dans le sens de l'application de la loi internationale. D'une part, et que d'autre part, il y ait d'autres pays qui se joignent au boycott d'Israël au boycott aussi réel au niveau économique, au niveau et surtout au niveau militaire. Les États comme les Émirats arabes unis, comme l'Égypte, ils devraient avoir une position plus ferme, aussi l'Arabie saoudite, plus ferme pour le soutien des Palestiniens, et aussi, en fait, aller dans le sens d'un boycott total de cet État, mais aussi de cet État fantoche, et aussi de son exclusion de l'ONU, puisqu'il n'a jamais appliqué la moindre règle d'usage de l'ONU, aucune loi internationale, et il n'a jamais appliqué la charte de l'ONU. Et va même jusqu'à accuser les personnes de l'ONU qui font les rapports concernant Gaza, concernant ces exactions aussi contre les Palestiniens, osent les accuser d'antisémitisme, osent les accuser d'un tas de partis pris, d'antisémitisme, etc. Et y compris d'ailleurs les juges de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Donc il faut vraiment mettre ces dirigeants, ce gouvernement et ce pays au pas, et puis même l'exclure carrément de l'ONU et arrêter les aides, plaider pour arrêter l'aide des autres pays, en fait, qui ne cessent pas, puisqu'il y a un pont continu d'aide militaire par les Américains et les pays de l'OTAN à cet État.
Oui, absolument. Monsieur Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien conclure le débat d'aujourd'hui? Je vous vois en train de tenir la carte des Nations Unies dans votre main. Est-ce que vous pouvez l'expliquer,
oui, tout à fait. Je vous prie. Une nouvelle fois, je voudrais citer ton chapitre 7 et l'article 51 qui dit que absolument. Le Conseil de sécurité a à tout moment le devoir et le pouvoir de maintenir ou rétablir la paix. Donc vraiment, si le Conseil de sécurité ne prend pas d'action, il se rend complice de cette situation, de ces massacres. Donc il faut vraiment parler de cela. Et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai entendu parler de ça sur une radio publique française ce matin. Le chapitre 7 n'a pas été cité, mais ce devoir et le pouvoir du Conseil de sécurité de rétablir la paix a été cité.
Et de protéger la population.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il ne le fait pas. Donc est-ce qu'on peut parler de la complicité, justement?
Complicité passive, certainement, oui, par leur absence d'action ferme pour rétablir la paix et pour éviter tous ces massacres, toutes ces destructions.
Je dirais une complicité active, dans la mesure où il y a toujours un veto qui s'oppose à toutes les décisions, même de l'Assemblée générale de l'ONU, en fait, en ce qui concerne la Palestine. Alors, il est important de voir ça, c'est une complicité active, hein. Dans la mesure où ils acceptent ce veto des États-Unis, d'une part, et puis les pays de l'OTAN qui se joignent systématiquement aux États-Unis dans leur position.
Monsieur Bernard Cornu, je vous prie.
Oui, tout à fait. De la part des États-Unis qui fournissent des armes, de la part de l'Allemagne qui fournit des armes, c'est certainement très actif comme complicité. Pour des raisons diverses, et c'est vrai qu'un ancien président américain, en tout temps de pouvoir, a dit que ce n'est pas lui qui faisait la politique, c'était ce qu'il appelait l'État profond, les vendeurs d'armes, les financiers, et cela joue beaucoup, parce que même Biden a reconnu en 1973, il y a plus de 50 ans, que la défense, le soutien à Israël de la part des États-Unis était conforme à leurs intérêts, et non pas pour des raisons idéologiques.
Absolument, eh bien. Ici prend fin donc le débat. Merci beaucoup à Issa Armidani d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci bien sûr à Monsieur Bernard Cornu qui nous a accompagnés depuis la France et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'artisanat persan.
La civilisation millénaire persane nous a légué un héritage culturel et artistique, riche dans sa diversité et dans sa rareté, et qui constitue aujourd'hui l'identité régionale et historique des habitants de cette vaste contrée orientale. Une partie essentielle de ce legs culturel, aujourd'hui protégé des ravages du temps par sa perpétuation, est constituée par l'art, ou plutôt par l'artisanat iranien. L'artisanat doit aujourd'hui son importance à son rôle dans la sauvegarde des pratiques artistiques autochtones et à la sauvegarde de la culture des peuples indigènes, peu modifiée par rapport à l'évolution rapide de la vie urbaine. Il incarne aussi le goût et la finesse artistique, en l'occurrence iranienne, grâce à son caractère manuel et à la délicatesse des réalisations auxquelles il donne lieu. La couleur dans les travaux de céramique de l'époque Safavide. Succédant aux Timourides, la dynastie Safavide a fait de l'Iran un vaste empire moderne. La période Safavide est caractérisée par d'importantes réalisations dans le domaine de l'art persan, notamment en architecture. L'ère Safavide marque ainsi un âge d'or artistique de la civilisation iranienne. À partir du règne de Shah Abbas Ier, la nouvelle dynastie se stabilisa et la paix s'installa. La capitale fut déplacée à Ispahan. C'est là que les nouveautés architecturales permirent également un développement des autres arts iraniens. La dynastie Safavide établit le chiisme comme religion officielle. Ceci eut un impact fort dans les changements culturels et artistiques de l'époque. La principale caractéristique des monuments safavides était l'usage uniforme de céramique, l'un des spécimens principaux de l'ornementation traditionnelle en architecture islamique, avec le but d'orner les grands espaces des bâtiments par une répétition infinie d'une même dessin en états variés. Ces céramiques sont notamment remarquables par leur variété chromique. Outre les couleurs qui ont toujours occupé une place centrale dans les arts islamo-iraniens, il existe des chiffres symboles importants dans la culture et qui se manifestent sous d'autres formes dans l'art, tels que le chiffre 7. Le lien entre une couleur et un chiffre n'est certes pas omniprésent, mais le chiffre 7 se manifeste cependant très souvent dans la vie culturelle, sociale, spirituelle et universelle islamique, en particulier iranienne. Ce chiffre est lié à un ensemble de 7 couleurs. Cet ensemble permet par exemple de créer artistiquement une énumération des jours de la semaine, des 7 étages du ciel, de la création des êtres en 7 jours, des 7 conceptions intérieures du Coran, des 7 arts, des 7 voûtes célestes, etc. Selon les anciens, les couleurs basiques étaient le blanc, le noir, le rouge, le vert, le jaune, le bleu et le brun. La faïence colorée de ces 7 couleurs est l'exemplaire le plus travaillé de l'emploi simultané de couleurs et de chiffres. Les ornements varient de plus en plus en couleurs à mesure que l'on se rapproche de l'époque safavide. À Ispahan, les céramiques de cette couleur ont un style nouveau. Et l'on peut voir un très grand spectre de couleurs diverses comme les bleus, les jaunes, les blancs, les noirs, les rouges, les verts, les bruns. Dans la culture persane, le vert est traditionnellement distingué du bleu, qui correspondrait un degré d'avancement tantôt inférieur, tantôt supérieur au vert. Il y a d'ailleurs plus de 7 mots pour nommer les couleurs dans les cultures et les parlers divers en Iran. Parmi toutes ces couleurs, le bleu azur, le bleu ciel et le jaune ont une place distincte et un rôle particulier. On estime que c'est le contraste entre ces couleurs qui crée la magie séduisante et l'attraction des célèbres monuments d'Ispahan et de l'art safavide. En architecture et culture irano-islamique, où la couleur est omniprésente, elle a un sens esthétique, mais surtout mystique. La céramique, où se manifeste le plus cette importance accordée à la couleur, est l'élément ornemental dominant de l'architecture islamique iranienne, particulièrement durant l'ère safavide. La céramique la plus utilisée durant l'ère safavide était celle en cette couleur, car sa production et son assemblage étaient plus faciles et plus rapides que les autres. Parallèlement à cette vitesse et facilité d'usage, les nouveaux bâtiments, palais ou lieux de culte, demandaient à foison de la céramique en tant qu'élément ornemental essentiel. L'ornement dans l'art islamique est là pour évoquer l'espace saint et céleste. Aussi faut-il décorer et découvrir les mystères de ces images. L'artiste musulman a essayé de créer un espace calme, mystique et spirituel, inspirant et s'inspirant de la religion et de la foi. L'usage de la céramique en architecture irano-islamique traditionnelle est lié à de nombreuses raisons, les plus importantes étant la solidité et la beauté. L'assemblage des couleurs est la raison principale de la beauté des ensembles en céramique. Ainsi, on peut voir ces couleurs lumineuses et fascinantes dans l'architecture des mosquées iraniennes, à l'intérieur de même qu'à l'extérieur des bâtiments. Les voûtes et les arches, en particulier dans les mosquées, sont également un signe remarquable de l'univers musulman mystique des architectes de cette période. Mais l'utilisation des couleurs, leur tonalité et leur harmonie montrent plus que tout autre élément cette dimension immatérielle de l'art islamique. Les nombres et les formes géométriques n'avaient, et non pas seulement une signification extérieure, mais était une manifestation de la création divine. Les architectes, utilisant des briques monochromes, pouvaient illuminer les constructions architecturales. Ils déplaçaient les briques, alternativement avec les jeux géométriques de l'ombre et de la lumière, et les clairs-obscurs, et c'est ce jeu avec la lumière qui a poussé à une encore plus grande attention à l'emploi des couleurs. Ainsi, l'usage et la manipulation des céramiques multicolores comme élément essentiel devinrent courants, ce qui changea l'espace architectural islamique de l'Iran. Le plus grand pouvoir des céramiques fut de transformer une construction monumentale en une construction brillante et unique dans laquelle les techniques architecturales, les ornementations et les couleurs se mélangèrent. Ainsi, ces céramiques colorées furent utilisées pour améliorer la spiritualité, le charme, l'éclat et l'attrait des monuments. Dans chaque société, chaque couleur évoque un état précis, qui a un lien intime avec l'âme des peuples. Comme la couleur bleu ciel ou bleu azur évoque le ciel infini et généreux et la quiétude du cœur. Ainsi, les couleurs des ziggourats, de bas en haut, étaient le blanc, qui symbolise le mystère, la clarté et la pureté. Le noir, signe d'un univers invisible, le pourpre, symbole de la terre et du monde souterrain, le bleu, l'incarnation du ciel et du cœur, et enfin, la couleur dorée des voûtes qui évoque la lumière du soleil. En effet, la couleur, l'éternité et la beauté du soleil ont toujours attiré l'attention des êtres humains, qui en ont toujours fait un symbole central de leurs monuments. Les Iraniens se sont également attachés à montrer cet élément esthétique dans l'architecture des lieux saints islamiques. Ainsi, pour conclure, nous pouvons souligner que la mosquée iranienne, grâce notamment à la céramique et ses variations chromiques, avec sa cour qui symbolise le paradis, son toit qui veut convier au ciel et sa voûte qui évoque l'arbre de la vie et constitue le symbole de l'Orient, rappelle l'univers éternel décrit par les philosophes et les mystiques musulmans. Cette couverture immuable des monuments religieux iraniens est fortement due à la conception mystique des couleurs et leur harmonie admirable et céleste.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.